Les échos de du Grand Saint-Barthélemy tous les derniers jeudis du mois. Aujourd'hui, jeudi 29 octobre, ici au sein du comité Maméga, en direct. La thématique, ça sera Jean-Marc qui vous la dira. Juste avant de commencer l'émission de radio, je vous invite à visiter notre site qui s'appelle vivreensemble.org. Vous allez voir un petit peu le travail qu'on fait, le comité Maméga, et un numéro de téléphone éventuellement après l'émission de radio, si vous pouvez vous contacter, si l'émission vous a intéressé, au 09 54 38 87 44. Jean-Marc, je passe la parole.
Merci Farid. Bonjour, auditeurs et auditrices de Radio Galère sur 88.4 de la bande FM et sur le canal 8C de RNT en DAB+. N'oublions pas le site de la radio qui est le www.radiogalère.org. Donc Farid vous a dit que c'est une émission qui se déroule une fois par mois, soit le dernier jeudi du mois, de 13h30 à 15h, en direct du comité Maméga. Aujourd'hui, nous avons des invités avec lesquels nous allons nous entretenir de l'engagement au Grand Saint-Barthélemy, d'autant plus en ces temps de coronavirus qui nous prive de plus en plus de nos libertés. Première pause musicale, et puis Nana Mouskouri, je chante avec toi Liberté.
Quand tu chantes, je chante.
Les échos sur la 88.4 de la bande FM avec nos invités qui vont se présenter respectivement. Alors, nous démarrons par Karima, Karima Berrich. Le micro, Karima, s'il te plaît.
Oui, bonjour.
Oh, bonjour.
Donc, Karima Berrich. J'ai eu travaillé sur l'histoire du Grand Saint-Barthélemy et à ce titre-là, on me demande d'intervenir sur la thématique de l'émission qui est l'engagement, les engagements.
Voilà, donc nous allons parler de cela. Tu es une formation sociologue ?
Oui, j'ai une formation en sociologie.
Donc voilà ce qui est important de pouvoir rappeler pour que l'on puisse reconstituer un peu cette trajectoire des engagements sur le Grand Saint-Barthélemy. Alors, bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Devons-nous te présenter ? On ne te présente plus, mais pour les auditeurs et auditrices de Marseille. Voilà.
Donc, je suis Anne-Marie Tagawa. Je suis alors actuellement présidente par intérim du Centre social Agora et co-animatrice avec tous mes collègues du groupe de veille. Mais j'ai aussi participé au collectif des associations du Grand Saint-Barthélemy et j'ai travaillé pendant plus de 40 ans comme éducatrice de rue dans les quartiers nord de Marseille et une vingtaine d'années sur le quartier du Grand Saint-Barthélemy où j'ai connu Karima Berrich.
Ont été conviés Jean-Michel Pirouetti, qui est habitant du quartier, n'est-ce pas ? Mais cependant, il est occupé en ce moment. C'est cela, Anne-Marie ?
Oui, il est occupé pour deux choses. D'abord, il participe à une réunion en ce moment même du groupe de veille. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a des décès dans la communauté religieuse dans laquelle il est... Voilà, à cause du Covid, et beaucoup de choses est-il à préparer par rapport à la venue du confinement avec les frères et les sœurs de sa communauté religieuse.
Ont été conviés aussi soit la Soali, association Système D de Fonds Vert. Compte tenu de son déplacement sur l'extérieur, nous ne savons pas s'il pourra être présent, mais sachez qu'il a été convié. En premier lieu, je voudrais connaître vos réactions suite à l'allocution du président Macron hier soir, ce mercredi 28 octobre 2020. Alors, l'avez-vous déjà écouté, ce cher président ?
Alors, je m'étais dit que je n'écouterais point. Et puis, en plus, il suffisait d'écouter les médias quelque temps avant pour savoir à peu près tout ce qui allait être, puisque c'est la nouvelle mode, c'est d'avoir les informations avant même qu'elles arrivent. Quand je travaillais sur ce quartier, il y avait un adolescent qui m'a dit un jour, en parlant de quelqu'un qui savait tout, lui, il connaît les informations de 1h à midi. Voilà. Il connaît à midi les informations de 1h. Bon, ben, c'était à peu près ça. Voilà. Mais ben, toujours un peu fasciné, puis en se disant, on ne sait jamais, si jamais il y a des informations nouvelles qui arrivent. Voilà. Donc, quand je passe toute la première partie, qui est la description du contexte actuel, par rapport à la Covid, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais c'est quand même, on est quand même dans un contexte de on va dire, d'informations assez paradoxales, régulièrement, qui font qu'on a entendu à un moment donné dire telle chose par rapport aux enfants, et hop, tout d'un coup, on revient à dire l'inverse dans une intervention télévisée. Puis on dit des choses par rapport aux personnes âgées, et puis hop, on redit encore autre chose. Voilà. Donc c'est difficile, déjà, de s'y retrouver. Et puis ensuite, sans être trop longue, cette notion de confinement qui n'en est que la moitié d'un, où on sent bien, et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que les habitants ici du quartier, femmes et hommes, savent très bien que, in fine, ce qui est en jeu, c'est la question économique, plus que la question de leur protection, et qu'on voit bien que ce qui se passe en ce moment, les mesures qui sont prises, les décisions qui sont prises, vont pas mal dans ce sens, et du coup, transforment en ce qu'on appelle des injonctions paradoxales, en psychiatrie, en psychanalyse, mais on entend tout et son contraire sur ce qui est décidé, et du coup, on ne sait plus très bien comment se retrouver là-dedans. Voilà.
Karima, veux-tu réagir ?
Oui, ben, comme Anne-Marie, je ne souhaitais pas écouter l'allocution du président de la République, in fine, effectivement, par une curiosité quelque peu morbide, de me dire, effectivement, il faut l'entendre. Peut-être des choses nouvelles seront dites par rapport à ce qui avait été déjà dit par les médias, ce qui avait fuité via les médias. Grosso modo, pareil, un confinement relativement assoupli, puisque les écoles de maternelle jusqu'au lycée sont ouvertes. Prépondérance, évidemment, de l'économie, on l'a bien entendu. Mais en même temps, moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, comme d'autres, hein. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'anticiper, une façon de gérer des crises autres que des crises sanitaires au sein de notre société, de mettre en place des couvre-feux de plus en plus tôt, parce qu'il y a des raisons sociales pour que ce pays explose, et quelque part, c'est une façon de préparer mentalement les gens à des nouvelles formes d'organisation pour mieux les contrôler. Je ne peux pas m'empêcher de penser cela aussi.
Ce sont des positions que l'on peut juger non seulement radicales, mais aussi peut-être pas forcément des plus démocratiques. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Karima. Je m'interdis d'être machiavélique au point de me dire que c'est construit pour tuer les luttes sociales, finalement, et pour écraser et rendre très servile, finalement, les gens, si les gens ne font pas attention. On voit quand même en ce moment qu'il y a des pays, notamment en Italie, à Naples, etc., où il y a des violences énormes, notamment entre les jeunes et la police, par rapport au refus de ce qui est posé par leur gouvernement dans les villes où ils habitent. Et c'est des villes, on le sait, qui sont très pauvres, où il y a... Bon. Et je me dis en tous les cas que même s'il n'y a pas, au départ, on fait ça pour ça, de toute façon, l'effet, il est celui-là. C'est-à-dire que on a aujourd'hui pratiquement plus aucune lutte, plus aucun mouvement qui se met en place. Il y a déjà très concrètement l'organisation même du couvre-feu, du machin. Ce qu'on avait déjà entamé après les Gilets jaunes sur les violences policières, sur la façon par le gouvernement de gérer les luttes sociales, là, c'est renforcé par tout un tas de mesures qui rendent la situation très difficile. Presque avec l'impression que si quelqu'un se met aujourd'hui à réagir et à lutter, avec quand même, les gens, ils n'ont pas de figure de faire ça, alors qu'on est dans une situation de crise où il y a des gens qui meurent à l'hôpital, quoi. Voilà.
Oui. Voilà. Tout à fait. C'est une façon de culpabiliser, d'une part, les personnes qui s'inscrivent dans une forme de résistance, mais d'autre part, il y a eu un ouvrage de Naomi Klein, une américaine, qui avait parlé de cela, c'est comment faire passer des mesures les plus impopulaires si on ne met pas en exergue cette peur et mettre les personnes, les habitants de la population, les inscrire dans une peur permanente. Donc à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire passer des mesures qui seraient tout à fait impopulaires en d'autres temps. Et c'est ce qui semble être agité en ce moment et nous acceptons tout. Alors... Est-ce qu'on peut penser que c'était la seule réponse possible à la reprise incontrôlée de l'épidémie de Covid-19, c'est le confinement ? Ou y aurait-il d'autres solutions qui auraient pu être avancées, proposées, travaillées ? Certes, il y a eu le couvre-feu. Le couvre-feu, nous ne savons pas effectivement s'il y a eu un retour là-dessus. Nous ne savons pas si ça a été effectif. Mais à un moment donné, on nous dit couvre-feu. Couvre-feu. Apparemment, sur lequel il y aura aussi un aménagement un peu plus restrictif, c'est-à-dire vers 19h, c'est cela, Anne-Marie ?
C'est ce que j'ai entendu ce matin.
Ce matin.
Mais bon, il faut encore avoir des confirmations. Il y a une conférence de presse ce soir avec, qui devrait préciser un certain nombre de choses. Mais voilà.
Alors, certes, nous n'avons pas de boule de cristal, c'est au moins ce que l'on puisse dire, mais au vu de notre expérience passée dans ces quartiers populaires, ce second reconfinement aura quel impact, selon vous, sur les habitants du Grand Saint-Barthélemy, de plus en plus paupérisés, de plus en plus précarisés ?
On a vu déjà les effets lors du premier confinement, donc rappelons les dates, de la mi-mars à la mi-mai, avec une crise alimentaire extrêmement aiguë. On a pu effectivement compter d'abord sur la mobilisation des citoyens, des petites gens, comme on dit de façon tout à fait noble, pour qu'effectivement cette crise alimentaire soit réduite le plus possible. Donc on a vu des mobilisations dans tout Marseille, que ce soit du corps enseignant, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont été à la pointe, les enseignants, pour se mobiliser à travers des récoltes de denrées pour constituer des colis, ou alors des cagnottes. On l'a vu ici avec le groupe de veille au Grand Saint-Barthélemy, Marie en parlera beaucoup mieux que moi. On l'a vu avec la plateforme solidaire du McDo, etc., avec la réquisition qui a été faite par les anciens salariés. Donc on voit qu'effectivement, il y a eu cette mobilisation extraordinaire des citoyens et citoyennes. C'est presque 6 mois, un peu moins, oui, c'est 6 mois, 6 mois après. On a un deuxième confinement, certes un peu plus souple. Pour autant, on sait que la crise alimentaire, mais pas que la crise alimentaire, il y a eu aussi des effets, des impacts extrêmement durs, négatifs sur la scolarité des enfants, sur des gens qui ne retrouvent plus de travail parce qu'ils étaient en contrat à durée déterminée, etc. Donc ça a accentué la pauvreté de ménages qui étaient déjà extrêmement modestes. Ça, c'est la première chose. Et je pense que ce confinement va encore aggraver cette situation. Donc on n'est pas sorti de la spirale, en tout cas, de ce qui a été à la fois la crise alimentaire, l'impact sur la scolarité des enfants et puis une pauvreté accrue. Et ce n'est pas les 150 euros ou 200, je ne sais plus les chiffres qui ont été avancés, d'une prime donnée aux familles, aux ménages les plus modestes, qui vont réduire cette fracture sociale, si je peux utiliser ce mot. C'est une vraie fracture. En fait, de mon point de vue, ce qu'a révélé le confinement, et le confinement bis qui va de toute façon exacerber, ben c'est la pauvreté dans cette ville. Hein. Il y avait un très beau document qui avait été édité par Philippe Langevin. Je ne sais pas si Marseille, oui, la pauvreté à Marseille, je ne sais plus le titre. Mais ça montre qu'effectivement, c'est une ville où il y a le plus de minima sociaux, où plus d'un Marseillais sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, en fait, ça a mis en lumière de façon plus crue la pauvreté d'une grande partie de nos concitoyens dans cette ville.
Oui, les inégalités sociales.
Et là, peut-être Anne-Marie pourra faire une focale sur le Grand Saint-Barthélemy, puisqu'elle a été au cœur de la mobilisation pendant le confinement, et le premier confinement et après. Et elle a été au contact de gens, effectivement, qui se retrouvent dans des situations dramatiques.
Anne-Marie, si tu veux.
Oui, pour compléter ce que disait Karima, c'est-à-dire que les systèmes de solidarité qui se sont effectivement tournés sur l'alimentaire, parce que c'est apparu à tout le monde comme une urgence absolue, et au vu, les enseignants le disaient, tu viens de le rappeler, les associations disant, mais en fait, on rencontre des familles qui disent, les enfants nous le disent, qu'ils n'ont rien à manger, etc. Et donc, il a fallu faire face à ça. On a démarré le plus souvent ici, une semaine, 10 jours après le début du confinement. Mais il y a eu une force et une puissance de réactivité qui, moi, m'a impressionnée. C'est-à-dire, malgré le confinement, la capacité des acteurs associatifs, des enseignants du collège comme des enseignants du primaire. Alors, on savait ici depuis longtemps, hein, Karima, que les enseignants de l'école primaire, en tous les cas de la Busserine, c'est pas pour rien, ils sont là depuis longtemps, connaissent très bien les élèves, ont une forme de lien avec eux et avec les familles qui fait qu'un enfant se sent le droit de dire à son enseignant, parce qu'il les appelait, parce qu'il leur demandait comment ça allait, se sent le droit de dire qu'à la maison, ben, il n'y a pas le repas et qu'ils ne mangeaient pas. Et le réseau associatif aussi, et je crois que c'est un truc qui a été similaire avec la plateforme de McDo, c'est-à-dire que ce réseau fait que la connaissance et la proximité fait qu'on repère assez vite qu'il y a ce besoin. Il a été, je dirais, il a été, on s'est tous organisés, encore une fois, malgré le confinement, pour mettre en place cette forme de solidarité, répondre aux besoins, etc. Puis on s'est vite rendu compte au bout d'un moment, malgré des aides qui sont arrivées, parce qu'on a sur ce quartier un esprit du don au niveau des commerçants qui est extraordinaire. Enfin, je trouve, on l'a déjà vu pendant toute l'année avec la maraude qui est organisée par le collectif des musulmans et les mamans de l'association Arc-en-Ciel, qui en fait font une maraude tous les lundis soirs et ce n'est que des dons. Qui sont faits par des commerçants du quartier.
Enfin, c'est essentiellement.
Essentiellement. Là, il y a eu en plus de ces dons la cagnotte qui a été organisée, les collectes organisées par les enseignants et par des habitants, chacun à leur niveau, la dotation financière de la Fondation de France, qui est arrivée un peu en fin de parcours, que nous avions décidé du coup de mettre, d'attendre la continuité derrière, et heureusement, pour voir comment on allait gérer tout ça derrière, parce que la faim et la question du manque dans les familles, c'est pas arrêté avec la fin du confinement, loin de là. Je crois que la plateforme continue à faire, pas tous les jours, mais les distributions, où j'ai vu l'autre jour Le Monde qui était présent. Voilà. Et du coup, les discussions derrière sur il faut faire attention, parce que ça commence ça aussi, tu vois, comment on divise les gens. Attention, que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes. Moi, j'aurais le point de vue de Coluche au début du Resto du Cœur. Qui est, c'est pas pour quelques personnes qui vont profiter d'un système à un moment donné. Puis qu'est-ce que ça signifie de dire profiter quand on sait l'humiliation que ça peut être d'aller chercher des paniers de nourriture. Donc, par pitié, qu'on ait du respect pour ces personnes. Mais après, on a repéré non seulement les gens qui ont besoin et que du coup, on a essayé d'être ce qu'on a appelé solidaire, plutôt que la situation d'aide ou d'assistance. Et puis ensuite, on a repéré aussi des personnes, parmi ces personnes-là, qui étaient encore plus fragiles que d'autres. Et ça, ça a été un, pas une découverte, mais c'est vrai qu'ici, moi, je ne pensais pas que c'était aussi important, et notamment les gens sans papier, en situation d'extrême précarité.
Et des personnes isolées, hein, surtout de troisième âge, âgées, et tout ça. Beaucoup, voilà, ils ont fait ce
personnes handicapées, personnes seules. Je pense aussi à des associations de picons qui ont repéré cette population. Voilà. Et voilà. Et du coup, on avait décidé pendant un moment de continuer à organiser cette aide, parce qu'on ne pouvait pas la faire de façon générale, auprès au moins de ces personnes-là. Et là, tout à l'heure, au groupe de veille, la discussion était justement de comment on reprend contact, comment on va vers ces personnes, à partir des enseignants, des médiateurs, des associations, pour voir où en est le besoin aujourd'hui. Et je suis d'accord avec Karima. Alors, et 150 euros pour les familles,
c'est une aumône. Ça ne sera pas grand-chose. Mais puisque tu parlais de la plateforme McDo, qui a aussi distribué des colis sur le secteur, mais bien au-delà, mais pas pour parler d'eux, c'est pour parler d'un autre acteur qui s'est mobilisé pendant cette période, ce sont les agriculteurs locaux.
Oui.
Et ça, c'est extraordinaire. Les agriculteurs locaux ont donné énormément de denrées, de fruits et légumes, pour qu'effectivement les familles ne se retrouvent pas seulement avec du riz, des pâtes et de l'huile d'olive, mais que les enfants puissent aussi avoir des légumes et des fruits à table. Et ça, c'est extrêmement important. Ça montre l'intelligence collective de nos citoyens, à quelque niveau ils se situent.
Ce n'est pas pour rien lorsque...
Et ça aurait été important de le communiquer, parce qu'en fait, on a appris, nous, assez tardivement, les uns et les autres, les commerces du quartier ou autour du quartier, les producteurs,
Et je voulais rajouter aussi, il y a aussi des habitants du quartier, des mamans qui ont pris leur propre...
Oui. Qui ont confectionné des masques et autres pour les distribuer et autres, effectivement. Donc, l'ouverture des services publics, puisque comparativement au prochain, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que cela va répondre en partie aux préoccupations et aux priorités des habitants du quartier, ou ce n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois ?
D'abord, on est content de savoir que les services publics resteront ouverts, sachant que sur le secteur, plusieurs services publics, je pense notamment à la CAF, à Pôle emploi, ont plutôt réduit les temps d'ouverture, déjà hors période Covid. Donc le peu d'heures d'ouverture existant, on a fortement espéré, et tant mieux, qu'ils ne seront pas fermés pendant cette période-là. Donc ça ne change pas grand-chose, puisque la demande des habitants, c'est qu'effectivement les services publics soient ouverts matin et après-midi, alors que nous avons perdu cette possibilité de pouvoir se présenter à la CAF ou à Pôle emploi ou à la Sécurité sociale selon les impératifs des uns et des autres, de ces familles, de pouvoir y aller soit le matin ou l'après-midi. Sauf qu'aujourd'hui, Jean-Marc, je pense que tu en as entendu parler, on est plutôt à la réduction des temps d'ouverture des services publics plutôt que l'inverse. Donc le peu de temps d'ouverture, heureusement que c'est maintenu.
Cela me permet de rebondir concernant la question des hôpitaux. Mais on sait qu'au niveau du recrutement, disent-ils qu'il y a peu de candidats pour être recruté comme infirmière. Mais on sait que cela dure depuis des décennies et des décennies. Cette logique gouvernementale de pouvoir amoindrir, c'était la même problématique concernant aussi le fameux mammouth qu'il fallait dégraisser. Les hôpitaux sont victimes aussi de ce dégraissement, et ce n'est pas aujourd'hui, au-delà du discours et des promesses qui ne tiennent qu'à ceux qui y croient, que l'on peut considérer que la situation va changer dans les hôpitaux, que cela pourra répondre à la situation sanitaire d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est problématique, cette situation aujourd'hui, et que je ne sais pas trop comment apporter des réponses, même si je ne suis pas là pour le faire. Je vous propose de faire une seconde pause musicale et une dédicace en la mémoire du professeur Samuel Paty, enseignant au Collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, mais aussi aux trois autres victimes d'aujourd'hui de Nice, sachant qu'en amont, nous allons, Anne-Marie, tu vas lire une lettre qui me semble être extrêmement importante dans ce contexte pour permettre de ne pas faire d'amalgame concernant les actes isolés de cet ordre-là que nous dénonçons et que nous ne cautionnons pas, et l'ensemble des musulmans de France. Je pense que c'est important de pouvoir rappeler de ceci. Merci Anne-Marie.
Alors, cette lettre m'a été donnée pour la lire par Jean-Michel Perroutet, qui fait partie d'une communauté religieuse et qui fait partie, avec un groupe d'imams et de prêtres de Marseille depuis longtemps, d'un groupe qui est un groupe à la fois d'échange, de réflexion, de solidarité, etc. Et ils ont eu le besoin d'écrire un message qui m'a demandé de lire. Il l'aurait lu s'il avait été là, mais qui m'a demandé de lire aujourd'hui. Nous sommes un groupe amical constitué d'imams et de prêtres de Marseille, auxquels s'ajoutent une croyante musulmane et une religieuse catholique. De manière régulière, depuis 10 ans, nous nous rencontrons pour échanger, partager et approfondir ensemble, par l'écoute, la réflexion, le questionnement, des éléments de notre foi, de notre culture, des faits de société. Nous sommes convaincus que nous appartenons à la même humanité, que nous sommes des êtres de relation et que nos origines, nos opinions, nos courants politiques et nos religions sont des lieux de découverte et d'enrichissement mutuel. Comme l'ensemble de la communauté nationale française, nous sommes profondément choqués par l'horrible assassinat dont a été victime M. Samuel Paty, professeur d'histoire du collège de Conflans-Sainte-Honorine. Cet assassinat lâche et abject d'un enseignant porte atteinte à des principes fondamentaux de la République, comme la liberté d'expression, la liberté de conscience, la laïcité. Nous sommes profondément convaincus du bien fondé de ces principes. Nous voulons exprimer notre soutien à la famille de M. Samuel Paty, à ses proches et à tous les personnels de l'éducation nationale. Nous reconnaissons l'importance de leur travail. Notre groupe est modeste, mais il est un signe parmi d'autres que c'est dans le dialogue mené avec franchise et respect que les ignorances, les amalgames, les préjugés reculeront et laisseront davantage place à un vivre ensemble plus pacifié et plus fraternel. L'ouvrage est devant nous et il a besoin de chacun de nous. Plus que jamais, parlons ensemble, comme citoyens et comme croyants, du civisme, de la laïcité, du fait religieux, de la place des religions, de la violence, du terrorisme, dans le débat public et dans tous les lieux d'éducation de jeunes, y compris sur invitation, dans les établissements scolaires publics et privés. Ce n'est qu'en mettant des mots que l'on fera reculer l'ignorance et le barbarisme. Nous sommes inquiets du climat qui s'alourdit dans notre pays et cible les musulmans et leurs structures qui travaillent dans un cadre républicain. Nous sommes disponibles pour toute initiative qui nous conduirait à témoigner ensemble avec des croyants d'autres traditions religieuses et des agnostiques, de ce qui nous pousse à servir la devise républicaine dans ses 3 dimensions, liberté, égalité, fraternité. Nous ne voulons pas céder à la peur et à la division. Nous avons décidé de vivre ensemble, unis dans la fraternité et unis dans le défi et le bienfait d'accueillir nos diversités. Marseille, le 21 octobre 2020.
Merci Anne-Marie. Pause musicale, Aline Souchon.
David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus il n'y a personne, Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolver tant d'Angélus. Ding qui résonne. Et si en plus, ding, y a personne. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide, si toutes ces balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent, ses yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de zigouiller. Et l'Angélus, ding qui résonne. Et si en plus, ding, y a personne. Et l'Angélus, ding qui résonne. Et si en plus, ding, y a personne.
Poursuivons les échos du Grand Saint-Barthélemy avec nos invités Karima, Anne-Marie. En attendant, bon, Jean-Michel et Soilane, nous ne savons pas, mais l'important, c'est que vous soyez présentes et je vous en remercie. Donc, le thème de l'émission, comme le précisait en introduction Farid, c'est l'engagement au Grand de Saint-Barthélemy, c'est carrément aussi. Mm-hmm. Pour vous, cela consiste en quoi? Vous êtes que deux, vous êtes punis, donc je vous interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire, engagement? On s'engage lorsque l'on se marie, dit-on, hein, on s'engage quand on va à l'armée, pour service, hein, on s'engage quand on signe un contrat de travail, quand il y a du travail, cela va de soi. Donc c'est quoi pour vous? Ça consiste en quoi l'engagement?
Ben, si on parle du Grand Saint-Barthélemy, c'est un engagement collectif, c'est un engagement au nom du collectif et pour le collectif. Si, voilà, c'est, moi j'ai eu la chance effectivement de travailler un peu sur l'histoire de ce quartier. La première forme d'engagement au nom du collectif et pour le collectif qui est apparu dans ce territoire, c'était encore quand il y avait les bidonvilles, il y avait le grand bidonville, et c'était les, puisqu'on a rendu, on a lu, enfin Marie a lu ce très beau texte des imams et des prêtres, de prêtres d'imams de Marseille. Ben, à cette époque-là, il y avait une présence des prêtres ouvriers et des sœurs catholiques, et qui étaient là, dans le bidonville, auprès des plus précaires, hein, dans un habitat qu'on ne peut même pas qualifier d'indigne. Je ne sais pas comment on peut qualifier l'habitat bidonville, mais qui étaient là pour apporter à la fois une assistance administrative, du soutien scolaire, etc. Et ça, c'est extraordinaire, sans prosélytisme religieux. Il faut le rappeler, c'est ça, en fait. C'est quelque part, ça dépasse ce que nous sommes, à quoi nous sommes attachés personnellement et subjectivement, parce qu'on est porté par une idée qui est beaucoup plus grande qui est beaucoup plus grande que celle de l'autre ou des autres. Et ça, c'est vraiment la première chose qui est apparue dans ce quartier.
Oui, juste pour compléter, effectivement, la période où il y avait l'existence de ces bidonvilles, il y a eu par deux fois, me semble-t-il, le feu aussi. Oui. Et les prêtres ouvriers, les prêtres ici au sein du Grand Saint-Barthélemy avaient ouvert. Avait proposé la chapelle pour pouvoir héberger et apporter le concours aussi aux habitants, si on peut le dire, à ce moment-là, à ces personnes qui étaient et dans ces bidonvilles. C'était une situation qui était complètement lamentable à l'époque. Oui. Donc ce sont, effectivement, tu fais bien de rappeler un peu...
Effectivement, la chapelle a été ouverte pour ces familles qui ont été victimes d'un feu, mais elle a été ouverte aussi pour la première communauté comorienne qui est venue s'installer ici, ne trouvant pas de lieu pour prier selon leur rite, et c'est la chapelle de Sainte-Claire qui a mis à disposition une partie de ses locaux pour cette communauté. Et ça, c'est vraiment le marqueur, c'est vraiment la marque de fabrique de l'histoire de ce grand Saint-Barthélemy. C'est l'engagement, mais multiforme, et plurigénérationnel et transgénérationnel. Mais Anne-Marie en parlera, donc est-ce que je peux continuer là-dessus ?
Oui, merci, bien au contraire.
Et après, quand ces tours et ces barres ont été construites, il y a eu une petite erreur de départ, mais qui est, pour la petite histoire, qui est toujours intéressante à rappeler, parce qu'elle a provoqué une mobilisation qui n'a fait que se développer et surtout se transmettre de génération en génération. Donc à cette époque, on a construit des écoles aux normes nationales, alors qu'au regard de la démographie locale, il fallait doubler le nombre de classes. Et rappelle-toi, Anne-Marie, dans les années 70, c'est la classe ouvrière qui est encore...
Elle
commence déjà à être un peu bousculée, mais elle n'est pas encore dans l'état où nous la connaissons aujourd'hui, mais elle est encore fort présente. La gamme nous disait que 75% des ménages du Grand Saint-Barthélemy sont des ménages ouvriers. Mmh. Et évidemment, des ouvriers qui mettent dans l'école de la République... Et hommage à Samuel Paty, évidemment, il va y avoir des résonances très très fortes. Hommage à, qui mettait dans cette école de la République la future ascension sociale de leurs enfants. Donc pour eux, c'était intolérable que leurs enfants aillent le matin et d'autres l'après-midi. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, ça n'existait qu'en dans les pays en voie de développement. On se retrouve dans les années 60, fin 60, début 70. C'est aussi Madame Mascret qui m'a parlé de cela. Hein. Dans les années 70, on termine les flamands. Donc c'est relativement récent. Les enfants, il y a un groupe d'enfants qui vont le matin et d'autres l'après-midi. C'est d'abord inimaginable en France à cette époque.
C'est du séparatisme.
Je sais pas pourquoi. Oui, c'est forme de séparatisme. Mais en fait, c'est-à-dire... C'est ce qu'on appelle pour moi la gestion l'incompétence. On crée des écoles au regard de la démographie. Ils ont fait cette impasse. Évidemment, il y a eu une mobilisation incroyable de parents d'élèves, notamment puisque nous sommes dans le locaux du comité Maméga de Madame Françoise Ega et de toutes ses consoeurs, Madame Vinotti, etc., pour interpeller les pouvoirs publics, pour résorber ou pour résoudre plutôt rapidement cette situation, ce qui a été fait par la mise en place d'Algeco et plus tard ces écoles que nous connaissons, dont une a été détruite dans le cas de la L2, des écoles à trois niveaux, des genres de bâtiments à trois niveaux pour pouvoir accueillir tous les élèves. Ça, c'est extrêmement important. Ça montre que la question scolaire, c'est une question qui habite complètement les habitants des quartiers populaires, y compris aujourd'hui pour une frange qui est précarisée, qui est paupérisée. L'école reste encore un sanctuaire. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions économiques, politiques. On est dans d'autres contextes plus difficiles, où l'école républicaine a parfois du mal à assurer ses missions. Mais bon, ce n'est pas le débat d'ici, ce n'est pas du tout ma spécialité. Et puis, l'autre question qui est sous-jacente, c'est la question du logement et du cadre de vie. L'école, ça fait partie du cadre de vie, mais pas que. Ils se sont battus pour qu'il y ait des équipements socioculturels, etc. Mais Anne-Marie en parlera aussi, parce qu'elle a beaucoup travaillé aussi ces questions sur la participation des habitants, sur ces questions qui les concernent en premier lieu. Et l'engagement, il est à la fois l'engagement de personnes et d'acteurs associatifs. C'est ça qui est important de rappeler. Après, on parlera peut-être plus des engagements actuels, etc. Et comment la question du logement et du cadre de vie perdure à travers aujourd'hui le combat comme des associations de locataires.
Anne-Marie, je te laisse la parole avec une question sous-jacente. Pour venir travailler sur le quartier, il ne faut pas être que des professionnels. Il faut être aussi quelque part un peu militant.
Alors exactement.
Un peu beaucoup.
Ce qui est une des richesses de ce quartier... c'est que toute son histoire engagée, elle s'est faite autour de personnes qui ont été militantes et qui ont décidé, carrément en fait partie, je pense que j'en fais partie, c'est pas une question de... Et beaucoup d'autres, mais qui se sont aussi engagées grâce à ce qu'est ce territoire. C'est-à-dire que ça a alimenté, moi je sais, je dis toujours que ma vie, les gens me disent toujours, mais mon Dieu, tu es parti à la retraite de... En 2005, t'as pas envie un peu de prendre l'air, mais l'air de quoi ? Tu sais, comme quand on dit aux jeunes, t'as pas envie d'en sortir. En 2015. Quand on dit aux jeunes, t'as pas envie d'en sortir. De sortir de quoi ? Disent les jeunes les plus aguerris. Moi, non, c'est ma vie ici. Voilà. Et pour moi, ma vision du monde, de ce qu'est la société, des rapports sociaux, des liens, des solidarités, elle vient beaucoup de ce que j'ai appris ici. et de cette dignité, de cette revendication d'être reconnu, digne, et que les institutions, les pouvoirs publics prennent en compte réellement la vie des habitants de ces quartiers. Ce que je trouve intéressant dans ce que rappelait sur le bidonville, moi, là, ma première rencontre avec ce quartier, ça a été effectivement Fontvert le bidonville, parce que je prenais le train le matin pour aller au lycée, et je passais à côté de ce bidonville où je me disais, pourvu qu'il n'y ait pas une chèvre qui traverse, parce que c'était la crainte, il y avait une ou deux fois des chèvres qui avaient été écrasées sur la voie ferrée, et ça me faisait peur. Je ne pensais même pas à des enfants. Et mes frères militaient pour faire du soutien scolaire avec les prêtres ouvriers à l'époque qui étaient dans la cité. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est des gens qui font pas de l'aumône. Ils sont pas, c'est pas des colons, c'est pas des gens qui viennent là pour faire. C'est des gens qui sont à côté et avec des gens avec qui ils luttent. Je sais qu'il y avait eu des trucs qui nous avaient à l'époque. Mes frères racontaient ça, hein, que les gens voulaient se coucher devant les bulldozers pour empêcher qu'ils viennent détruire le bidonville. Et moi, j'avais peur parce que je me disais, mais mon Dieu, mais mes frères, ils vont se faire écraser avec tous les gens. Et en même temps, je commençais à comprendre que la lutte, c'était aussi de pas qu'on fasse pas n'importe quoi des habitants et qui étaient vivants dans ce lieu. Ici, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le contexte du bâti a changé, mais on se rend compte qu'il y a en permanence, il faut avoir la ressource de s'engager en permanence et de rien lâcher. C'est un mot qui est souvent prononcé, hein, on lâche rien. Pas qu'ici, ailleurs, mais malgré les abattements, parce que je vous assure qu'en ce moment, tous les gens qui sont engagés collectivement au titre associatif et habitants disent eux-mêmes être mis à mal actuellement par l'absence de prise en compte par les politiques publiques. C'est-à-dire qu'à force d'entendre à force de ne pas avoir de réaction des institutions, tout ce pour quoi on se bat, on a participé avec Karima à beaucoup de choses en termes de lutte, parce qu'à parler de l'école, à l'époque où il y avait l'école le matin et l'école après-midi, mais il y a eu aussi la démolition de l'école qui a fait après que l'école était surpeuplée, avec un bureau de directeur qui était occupé par une salle de classe, et où il a fallu aussi, dans le cadre de l'ANRU, se battre pour qu'il y ait une nouvelle école qui avait été démolie avant et qu'il a fallu reconstruire. Mais aussi ce qui s'est passé pendant Marseille 2013, on ne va pas y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais où on a refusé cette indignité, en fait, et dit on refuse d'être instrumentalisé totalement par des institutions qui vont nous utiliser et au profit de leur propre politique. Donc moi, je dirais deux choses sur l'engagement. C'est à la fois la question qui est basée sur la solidarité, pas sur l'assistanat. Et ça développe des professionnels avec des militants associatifs et des habitants, même s'ils ne sont pas dans les associations, qui se forment à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas formé dans les écoles d'assistantes sociales ou d'éducateurs pour être des personnes engagées dans les quartiers. Mais c'est ce qu'on vit ici qui fait que soit on rêve, comme beaucoup de travailleurs sociaux, de partir au bout de 3 ans, parce que c'est quand même quelque chose qui est régulier, soit on rêve d'y rester, parce que c'est quand même aussi cet engagement qui nous fait vivre, et professionnellement, et en tant qu'être humain. Voilà. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est que l'engagement ici, il empêche les plans de carrière. Voilà. Et que tous ceux d'entre nous où on se reconnaît aujourd'hui dans les collectifs, dans les engagements qu'on a eus, c'est vrai que ceux qu'on a vu disparaître, c'est souvent ceux qui ont prétendu que ces engagements soient un marche-pied pour obtenir des postes. C'est dur à dire, hein, parce qu'il en faut aussi. Qui ont réussi aussi. Mais du coup, c'est souvent ceux qui, après, ont du mal à garder un pied ou un engagement dans ces quartiers. C'est souvent compliqué. Voilà.
Oui, carrément.
Je voudrais compléter. Anne-Marie, ça va lui rappeler des souvenirs. Mais la question de l'engagement, elle nous a été posée à la fois par un adolescent, parce qu'à un moment donné, effectivement, on est des professionnels engagés. Mais parfois, souvent, on n'est que des professionnels, parce que au regard des injonctions qui nous sont données, de la masse de travail, c'est difficile. Donc il faut parfois se donner cet espace pour prendre la distance et être dans le questionnement et le sens de ce que nous faisons et pourquoi nous sommes ici. Et avec qui nous le faisons. Nous ne le faisons pas pour, nous le faisons avec et pour. Ce n'est pas la même chose. Et pour nous aussi, pour les autres, mais aussi pour nous. C'était quand on avait mis en place le ciné-club d'à côté. Et on avait fait un cycle de cinéma sur les luttes sociales. Et on avait invité les salariés de Nestlé. Ouais. Et on se souvient de cette phrase extraordinaire où Chadouli, tu te rappelles, il avait 14 ans, Chadali, dans le cadre de ton accompagnement professionnel. et qui, à un moment donné, effectivement, comme tous les adolescents de son âge, avait vu les grandes manifestations. Je sais plus, c'était plus sur les retraites ou je sais plus sur quoi c'était, et qui n'aboutissait à rien. Donc des milliers, des centaines de milliers de gens dans la rue, et finalement pour n'obtenir pas grand-chose. Et donc ça questionne les adolescents en se disant, mais manifester, à quoi ça sert? Et il pose cette question à ce syndicaliste qui était un des leaders du mouvement contre la fermeture de Nestlé. Et on s'est dit, mais comment il va s'en sortir? Parce qu'effectivement, elle était tout à fait légitime et justifiée, cette réponse. Et puis, cette question, pardon. Et puis, là, cette réponse extraordinaire. Et nous, ça a été une bouffée d'air. Il a dit, ça m'a permis d'être un homme debout. Mmh. Et ça, c'est extraordinaire. Je peux continuer ou on peut pas?
Oui, vas-y, continue.
D'être un homme debout. Et ça, ça nous a... On s'est retrouvés avec Anne-Marie et d'autres en se disant, non, mais c'est extraordinaire. Ça nous a questionnés, etc. Et puis, le deuxième temps, et c'est pour ça que c'est important de développer ces espaces, que ce soit le groupe de veille, que ce soit le collectif des associations du Grand Saint-Barthélemy ou d'autres espaces où on peut enfin se soustraire à des injonctions de plus en plus lourdes qui nous maintiennent la tête sous l'eau pour ressortir et être des êtres pensants. C'était le comité Maméga, d'ailleurs, si tu dois t'en souvenir, Jean-Marc, qui avait organisé une rencontre à l'espace culturel Busserine, et Salva Condro était présent.
Oui,
et à un moment donné, Anne-Marie aussi, moi aussi, donc c'est toujours un peu ce cercle, nous étions là avec, bien sûr, d'autres acteurs associatifs et des habitants, et Salva Condro il parle de la question d'abord des ancêtres et la question de l'engagement. Et on adorait, enfin, ça fait du bien de recevoir, enfin, de rencontrer aussi ces universitaires engagés qui ne sont pas seulement là pour donner du savoir, de cette façon un peu pyramidale, et qui parle des ancêtres. Il a dit, il y a les ancêtres qu'on a, et puis les ancêtres qu'on se donne. Il cite Frantz Fanon. Évidemment que pour nous, Frantz Fanon, ça nous parle. Ça nous parle énormément, etc. Et puis on a d'autres ancêtres qu'on se donne, qui lient à l'histoire de ce quartier. J'ai parlé des frères et des sœurs catholiques, mais il y a aussi tous ceux qui sont engagés pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'après on a retrouvé comme responsables de centres sociaux ou d'associations, etc., de locataires, etc. Et puis la question de l'engagement, il avait cité Pierre Roche.
Oui.
L'engagement, et il avait dit, il y a l'éthique de la fidélité et de l'engagement.
Bien sûr.
Anne-Marie est complètement, je peux le dire, dans l'éthique de la fidélité et de l'engagement. Au-delà de son temps de carrière professionnelle, l'éthique de la fidélité de l'engagement, c'est ça qui est important. Je pense qu'on est un certain nombre d'entre nous ici qui restons plus ou moins toujours dans cette éthique de l'engagement et de la fidélité. Alors la fidélité, parce qu'il faut rester fidèle aux engagements qu'on a pris avec les gens, mais aussi l'éthique de l'engagement. Et il avait pris un exemple que moi j'ai trouvé très intéressant, puisqu'elle parle de 2013, qui est la fameuse année Marseille capitale de la culture, où il disait que l'engagement, à un moment donné, c'est qui ou c'est quoi votre curseur? Est-ce que ce sont les habitants ou les institutions? Si vous pensez que c'est les habitants, et que ce que les habitants demandent, ou pourquoi ils luttent, vous semble légitime, vous devez pencher du côté des habitants, même si cela doit vous mettre en danger. Y compris dans votre carrière, y compris dans votre situation professionnelle, etc. C'est en cela qu'Anne-Marie a dit, oui, quand on est dans l'engagement, on n'est pas dans un parcours carriériste. Pas de carrière, pas dans un parcours carriériste. Et en 2013, on a pris, un certain nombre d'entre nous, une décision de dénoncer ce qui nous avait été proposé dans le cadre de Marseille Capitale Culturelle 2013. C'est ça aussi l'engagement, Jean-Marc. C'est à quelque part de se dire, en fait, oui, on s'efface au profit de quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende.
Mais effectivement, si nous sommes à d'autres générations, parce qu'il faut rappeler qu'à une certaine période, des années 68-69, bon, il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés à cette période, mais il y avait des étudiants qui venaient. Ils étaient des courants maoïstes, léninistes et autres, trotskistes qui venaient, et qu'il y a eu des engagements de certains camarades, que ce soit Mokhtar de Fonvert, que ce soit d'Antoine, et de bien d'autres qui étaient dans tous ces mouvements, dans tous ces courants. Bon, les étudiants, ces étudiants qui étaient porteurs d'idéologie, ce qui ne fait pas de mal, c'est ce qui manque à mon sens aujourd'hui, et qu'ils apportaient leur contribution aux luttes qui menaient les habitants aussi du quartier. Donc ce sont des éléments qu'il faut que nous puissions prendre en compte dans la mémoire aussi du quartier, du Grand Saint-Barthélemy aussi.
Alors, par rapport à ce qu'elle a dit, quand même assez intéressant par rapport à Capitale 2013, alors, je ne citerai pas le nom de la personne qui a dénoncé ça, elle a perdu son travail. C'est ça qui est grave en même temps. Ça a permis, je trouve que... Voilà,
et ça a été des bagarres institutionnelles, parce que moi, à l'époque, j'appartenais professionnellement dans une grosse institution. C'était un moment où il a fallu batailler pour que, à un moment donné, le respect aille jusqu'à faire que l'institution se positionne, effectivement, avec les associations et avec les acteurs associatifs et les habitants, et non pas au profit des institutions. Je pense que ça a été peut-être une des dernières fois où ça a été fait, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que l'institution en question prendrait une position similaire. Il y a une chose qui me semblait... Tu viens de rappeler cette partie, on a tendance à l'oublier, mais c'est intéressant l'histoire. Moi, ma première lutte ici, ça a été avec ta maman, Jean-Marc, à la maison de jeunes, sur les crimes antiracistes en 73. C'est-à-dire qu'elle ouvrait la maison de jeunes, et là j'ai connu Antoine, Mokhtar, etc., et moi-même je militais. Et ce que je trouvais génial, c'était, on ne parlait pas de quartier populaire et de Marseille, on était tous marseillais, il y avait une lutte sur Marseille, et la Busserine s'y était engagée, parce qu'il y avait ces personnes déjà emblématiques à l'époque, dont Françoise Héga, dont Marie Santofanti, où il y avait, qui portaient cette lutte-là, et pourtant à l'époque, les rapports peut-être entre communautés n'étaient pas autant exacerbés qu'aujourd'hui, ou en tension, en tous les cas à l'échelle du pays. Et moi, ça a été ma première réunion. La maison de jeunes était pleine à craquer, avec des militants de Marseille, d'autres quartiers, et voilà. C'est le genre de situation dont on rêve de continuer à s'alimenter. Il faut qu'on lâche pas là-dessus. Oui. Je voulais juste dire un dernier petit truc par rapport à la nouvelle génération, dont on dit souvent qu'elle ne s'engage pas, qu'avant c'était mieux, etc. Je dis souvent que moi je m'inscris en faux, c'est leur forme d'action, d'engagement qui est différente. Et pour preuve, dans mon activité professionnelle et militante et engagée sur ce quartier, j'ai connu trois générations de jeunes qui parlaient de la relève. C'est-à-dire, ça, c'est né à une période où il y avait des jeunes qui aujourd'hui sont des grands, voire certains professionnels, d'autres en relais associatif avec nous, voire ont fait leur vie ailleurs, hein, peu importe. Mais qui, dès qu'ils ont commencé à grandir, on dit, on est la relève. Et leur premier t-shirt, je pense à l'équipe de Daouda, Adidja, Hélène, tout ça, ils avaient fait un t-shirt la relève avec les plus jeunes qui se formaient avec eux, eux-mêmes ayant été impliqués dans le mouvement associatif avant, au centre social, avec nous, ont participé à des actions de solidarité. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont à nouveau eux-mêmes dans l'action, encore une fois avec des formes qui sont particulières, mais ils sont sur la solidarité. Moi, un jour, on parlait une fois en disant ça vaudrait le coup de faire une émission de radio en direct du Conseil de jeunes, parce qu'au moment où on fait les conseils de jeunes, c'est extraordinaire. C'est-à-dire et ils font venir maintenant des plus jeunes. Alors il dit, c'est nos petits frères et nos petites sœurs qui viennent petit à petit et qui rentrent dans ce mouvement et qu'ils appellent aussi la relève.
C'est
quoi.
Magnifique, la relève. C'est génial.
Ah, oui, bien sûr.
Ce qui est intéressant, il parle de tout à la fois. C'est ça qui est bien. Et là, récemment, il parlait de vote en ce moment.
Du vote, de la discrimination vestimentaire à l'école. C'était le dernier thème, tu vois.
Effectivement, faire une émission avec les jeunes, ça fait toujours du bien parce que nous apprenons beaucoup en contact avec les jeunes aussi d'aujourd'hui qui militent d'une autre façon, notamment quand on voit les jeunes pour le climat. Et donc, et bien d'autres nouvelles formes de lutte, que ce soit pour la déconsommation, pour des projets de cet ordre-là, pour d'autres formes de, une autre forme de société, mais pas... je ne parlerai pas d'endoctrinement, mais de dire qu'il n'y a pas d'idéologie comme par le passé. Ils ont dépassé ce cadre-là, ils sont dans autre chose, mais ce sont des militants qui font d'autres choix de vie pour faire société aussi ensemble. Alors, les nouvelles formes de lutte aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup évoqué le passé, quels sont les combats qu'il y a aujourd'hui à mener, par exemple, sur le Grand Saint-Barthélemy?
Moi, je suis super méenne, Marie. Alors, parce que la question du temps, elle est relative. Je pense que moi, un des combats, en tout cas, qui a été remarquable, C'est pendant la durée du programme de rénovation urbaine. Il faut pour rappeler qu'il a démarré le dernier trimestre 2013, qu'il est en cours, il n'est pas terminé. On espère autour de 2022-2023, donc 10 ans de travaux. Et je t'assure, pour pouvoir... actuellement, je suis sur Herbel, il va y avoir un PRU qui ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. C'est 1200 logements, hein, Herbel, avec 3 bailleurs. J'ai rencontré les habitants du plan d'Ao. Grâce à la mobilisation des associations de locataires, de Picon, Busserine et Saint-Barthélemy 3, on peut dire que globalement, attention, quand je dis globalement, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ont été ratées dans le cadre du PRU, mais disons que dans l'ensemble, les associations de locataires ont su défendre les intérêts et les droits des locataires. Je parlerai notamment de la charte de relogement. Aujourd'hui, je m'appuie sur ce travail pour le proposer aux habitants d'Herbel parce qu'elle est quelque part exemplaire. Elle a été travaillée. En plus, je l'avais accompagnée. On avait mis Kevin, le centre social de l'Agora, c'était extrêmement impliqué. Hein. Toujours cette question de l'engagement et du curseur, de mettre quelqu'un à disposition pour accompagner les 3 associations de locataires, particulièrement Picon Busserine, parce que c'est la Logirem qui a été concernée par la question des destructions et des relogements. Donc à l'époque, c'est Magie de la Welle, toujours, qui est membre de l'association de locataires de la CLCV Campagne Picon, et Sidamed Abadli pour la Busserine. Et effectivement, donc à la fois Kevin a servi de petite main pour pouvoir mettre sur papier ce qui était dit, mais réfléchir, les concertations, les réunions avec les habitants, le quitus demandé pour parler au nom des habitants, etc. C'est un vrai travail de démocratie qui s'est passé. Et avec comme résultat, effectivement, une charte qui est plutôt à l'avantage, alors qu'il pourrait l'être plus. Mais on connaît quand même les systèmes de négociation. On demande toujours beaucoup pour essayer d'avoir quelque chose qui ne soit pas juste au moyen, mais relativement intéressant. Donc ça, moi, je trouve que ça a été une période, notamment avec le collectif d'associations du Grand Saint-Barthélemy, avec Pierre Lézot, les réunions que nous avions avec les associations de locataires, avec le Centre Social Agora, avec l'ADAP, avec d'autres associations, sur la question du PRU et du chamboulement que cela a mené aux habitants. Vraiment, pour moi, ça a été exemplaire. Oui. Je le dis d'autant plus, Anne-Marie et Jean-Marc, que je le compare... à ce que j'ai pu observer sur le plan d'Ao après coup, où les gens, et même sur les Flamands. Hein. Les Flamands, moi j'ai encore en mémoire la réunion, elle se passait au centre social Agora. Il y avait 2 ou 3 habitantes des Flamands, et qui étaient extrêmement bouleversées par ce qui s'est passé dans le cadre du PRU des Flamands. Ou à peu près, on a eu le pire des scénarios, c'est-à-dire qu'on a eu quasiment 2/3 de la cité des Flamands qui a été détruite. Parce que ce qu'on n'avait pas anticipé, Jean-Marc, c'est que la question des destructions et de reconstruction, destruction d'un certain nombre de logements, reconstruction en partie in situ et le différentiel dans d'autres secteurs de Marseille, tu détruis 400 logements, tu dois en reconstruire 400. Mais pas 400 dans la cité concernée ou l'espace concerné. Donc, ce qu'on ne s'est pas rendu compte, là, et c'est vrai que ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on a détruit des liens très forts, des liens sociaux forts. On est quand même sur, comme je dis toujours, un vieillissement et un enracinement générationnel sur ces territoires. Oui. Faire partir 1/4 de tes voisins, c'est un impact psychologique terrible. Mais alors, les 3/4, les 2/3, ça, je sais, c'est vraiment une vraie violence. Je suis un peu longue, mais ça semble important de rappeler que c'est vraiment le défi aujourd'hui qui nous attend, en tout cas de façon moindre ici, aux Flamands, je pense un peu plus, c'est comment... C'est pour ça que ces espaces qui existent, comme le groupe de veille, c'est extrêmement important, parce que ça permet aux gens de retisser quelque chose qui a été en partie détruit, en faisant imploser une partie de la population. C'est très important, ce travail-là. Pour moi, je trouve que c'est le plus important après le PRU. C'est cette question de retisser du lien social, et ce qu'on appelle une vie de village, d'interconnaissance forte, comme nous disait notre ami Michel Kokoreff.
Oui.
Tu veux compléter, Anne-Marie?
Une autre pause musicale, puis après nous allons reprendre. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des auditeurs et auditrices, et lorsque c'est trop long, ils peuvent décrocher aussi. Voilà, musique.
On décroche. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا
du Grand Saint-Barthélemy en direct des locaux du comité Maïga. Nous allons poursuivre avec Karima et Anne-Marie. Donc nous allons laisser la parole à Anne-Marie pour poursuivre un peu l'entretien qu'il y a eu en pendant l'émission et en dehors de l'émission parce que cela continue d'évoquer un peu toute cette histoire du Grand Saint-Barthélemy. Alors, c'est l'idée de transmission bien sûr qui nous anime toujours.
Des transmissions et puis de modèles et... On discutait en aparté pendant... Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des facteurs qui ont facilité, qui ont été facilitateurs? Alors, moi, de mémoire aussi, je parlais tout à l'heure de ma mémoire, mais on parlait tout à l'heure de l'investissement et rendre leur hommage, des militants communistes, effectivement, à cette époque, entre une personne commerçante de Picon et une autre personne qui était responsable d'une association ici. Mais il y a eu aussi... tu parlais tout à l'heure, Karima, des flamands, une équipe de maîtrise d'œuvre sociale choisies comme maîtrise d'œuvre sociale et qui ont traduit en termes pratiques leur mission dans une forme qui a été une véritable exercice de la démocratie, de mise en avant et de placer l'habitant, comme tu disais tout à l'heure, au cœur de cette démocratie, même si à certains moments, cette violence qui pouvait s'exprimer, du bruit à la parole, c'est quand même ce qui sera retraduit, Et quand on parlait en termes de mémoire, moi j'ai été amenée à participer une fois, et Karima y était aussi, il y avait Majid Lawal aussi, à une grande réunion dans les locaux de MRU,
ah oui,
de, aux Égalades. Là, on n'était pas quatre, mais là, c'était plein.
C'était plein. Ah.
Et où je disais, finalement, ce qui a changé depuis le début dans ces quartiers, c'est qu'au lieu d'avoir un interlocuteur en face de nous, qu'on sait cibler par rapport à l'indignité dans laquelle sont mis les habitants ici, on se retrouvait tout d'un coup avec 10 intermédiaires, et je me rappelle de la colère d'un habitant qui disait « Mais je m'adresse à qui, quoi, ici ?»
Oui.
Hein, avec un qui est coordonnateur, l'autre qui est supérieur, l'autre qui est encore plus supérieur, etc. Et cette division-là, elle est extrêmement... on parlait tout à l'heure de machiavélisme, mais je me dis, c'est divisé pour me régner, c'est vraiment une stratégie qui est utilisée et qu'on retrouve dans toutes les politiques publiques, quasiment. Hein, voilà. Et ce jour-là, il y a eu une violence dans les propos, et moi, j'avoue... qui est assez peur de... Pourtant, j'ai milité dans l'extrême gauche et participé à des manifestations violentes. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir de là ? Et tout d'un coup, je me suis rappelé, et je l'ai relu après, cet ouvrage de Michel Perraldi, parce que je me suis dit, en fin de compte, c'est pas parce que les gens, ils expriment leur colère que les autres en face, il faut au contraire amadouer pour que les gens entendent, quoi. Il faut qu'elles puissent exprimer cette colère et dire, oui, on est là. Et quand je disais... qu'on avait à faire attention aujourd'hui, c'est que, il me semble qu'un des plus gros enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est que nos collectifs de lutte, alors que ce soit le groupe de veille, dans l'histoire du collectif des associations du Grand Saint-Barthélemy, ne deviennent pas des collectifs, on va dire, d'acteurs associatifs et de professionnels, qui sont très présents dans ce collectif. Hein. Mais ce qu'il faut absolument, c'est laisser la plus grande aux et y compris dans les acteurs qui habitent ce quartier, pour que puisse s'exprimer vraiment toute la volonté de changer les choses, parce que quand on décortique un peu ce qui se passe, on s'aperçoit très vite que les institutions qu'on a en face, que ce soit l'État, la politique de la ville, la métropole, etc., ont tendance à vouloir eux-mêmes choisir les interlocuteurs, réduire la part de mobilisation et de... j'allais dire de violence, mais la violence, elle n'est pas forcément négative, et de virulence, on va dire, dans les propos, et du coup, s'assurer d'une certaine façon que nous serions des instruments, en quelque sorte, de leur politique. Et ça, je crois qu'il faut qu'on y soit hyper vigilant. Ça va peut-être amener aussi à des ruptures par rapport à certains, parce que c'est pas évident de gérer ça quand tu es dans des situations de financement, dans des demandes financières, dans la nécessité d'apparaître... aux yeux des institutions comme étant le bon porteur du point de vue de la population. Il faut qu'on y fasse très attention dans les formes d'organisation, dans les tout, quoi. Il y avait nos collègues il n'y a pas longtemps qui disaient, quand on veut qu'il y ait des habitants qui participent et des habitants de ces quartiers qui travaillent aussi, ben, il faut qu'on fasse des réunions à un moment où tout le monde peut y participer. Il faut qu'on ait une forme de démocratie dans la participation au débat et dans la représentation vis-à-vis des institutions, quand on nous propose de les rencontrer, qui fassent que ce soit cette parole-là qui soit entendue. Voilà.
Oui, vas-y.
C'est pour cela qu'il faut être solidaire, je trouve que c'est important, parce que la mémoire vive, pas, comme tu viens de dire, Karima, le collectif du Grand Saint-Barthélemy, moi je trouve que c'est vachement important par rapport à ça. Et il ne faut pas oublier que dans le groupe de veille, il y a des habitants. Et c'est pour cela que c'est vachement important de s'impliquer, d'être solidaire.
Oui. Donc, juste un clin d'œil à Alain Forest aussi, parce que lui, il a eu un souci aussi toujours constant, qui a été celui de la place aussi des habitants dans des prises de décision. C'est ce qu'il faut aussi rappeler, qu'il y a eu des personnes qui ont été exceptionnelles, bon aussi, qui ont apporté leur contribution au niveau qu'ils se situaient, mais que c'était important qu'ils soient présents et qu'ils continuent à militer. Alors Alain, si tu nous écoutes, nous te passons un bonjour, nous ne t'oublions pas, n'est-ce pas?
Ouais, tout à fait.
Voilà. Alors, Karima.
Non, moi, je voulais ajouter quelque chose. Effectivement, Anne-Marie a parlé de ce livre en hommage à Michel Anselme, Du bruit à la parole. Et ma dernière expérience du bruit à la parole, c'est en 2016. Toujours dans les locaux de l'Agora, je ne suis plus la directrice, mais bénévolement, je continue à accompagner les associations de locataires. Et Émile Onolfo, qui est le président de l'association de locataires de la CLCV Campagne Picon, me dit, Karima, il va avoir une réunion à l'Agora avec la Logirem, évidemment, et l'architecte, très attendu par les habitants. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Donc, on se voit deux temps en amont pour préparer la rencontre. Et puis, la rencontre se fait. La salle est relativement pleine, ce qui est déjà un bon signe. Mmh. Ça veut dire que les habitants sont présents. Et là, on est face à un mur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui. On a un communicant qui nous fait défiler des diapositives à partir de son PowerPoint. Et en face, c'est des habitants, d'abord, qui sont très en colère parce qu'on leur avait promis la présence de l'architecte. Ils avaient des questions à poser parce qu'ils n'étaient pas très contents de ce qui leur avait été finalement livré. Et on nous dit qu'il a eu un petit accident, il a le pied dans le plâtre, il n'a pas pu se déplacer. Bon. Et puis là, là, il y a une colère que moi, je n'avais jamais vue, Anne-Marie. Mmh. On en a suivi des réunions pendant la première période du PRU. Puis là, des gens qui craquent et qui disent, effectivement... donc, il y a un jeune homme qui dit, mais de toute façon, pour vous, on n'est pas des êtres humains, nous sommes des chiens. Ça montre la violence peut-être ressentie par cette personne, disant, en fait, vous n'avez aucun... Vous avez du mépris pour nous. Nous, pour vous, nous sommes des chiens, nous ne sommes pas des êtres humains. Vous ne tenez pas compte de nos parents qui sont là depuis 30, 40 ans. Vous ne tenez pas compte de ce que nous vous demandons, etc. Et puis un autre monsieur, alors lui, effectivement, il a le malheur d'habiter au bâtiment B qui longe la voie rapide, en plein travaux, et qui, lui, a complètement, psychologiquement, atteint le palier suprême en disant que la prochaine fois, il sort une arme et il tire. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à cette violence psychologique exprimée, enfin, cette violence exprimée par des habitants qui est en fait qu'une violence psychologique subie par des travaux qui ont bouleversé leur quotidien sur plusieurs années. Et ils avaient décidé le lendemain de bloquer le rond-point. Sauf qu'on ne peut pas bloquer le rond-point. Heureusement, quelque part, il y avait Mohamed, que tu connais, Mohamed Ben Sada, et moi-même. Et on dit non, il faut organiser. Parce que c'est ça, en fait, ouais, Anne-Marie. Parfait. C'est comment on organise sans mettre en danger.
Sans
mettre en danger la mobilisation, les gens, etc. Donc on se retrouve très rapidement. Demande un rendez-vous le lendemain aux habitants dans les locaux de l'association de locataires. Et là, évidemment, l'expertise des habitants, là, c'est une réalité. C'est pas un mot creux ici. Hein. Ils avaient déjà fait tout le constat. Il fallait faire le constat et puis les propositions. Donc, on fait ce travail-là avec eux, qu'on envoie évidemment à la préfecture, avec une deadline en disant au préfet, c'était M. Rousset, préfet de l'égalité des chances, que s'il ne répond pas à cette deadline, nous occupons le rond-point. Évidemment, il n'a pas répondu. Et la deadline étant passée, le lendemain, pour la petite histoire, parce que c'est toujours savoureux, petite histoire, je suis à Brico-Dépôt, je téléphone qui sonne, et c'est un numéro masqué, je réponds. Et puis, c'est la secrétaire de M. Rousset qui me dit, M. Rousset veut vous parler. Je dis, pourquoi pas. Il me dit, il faut absolument que vous annuliez l'occupation du rond-point, le blocage. Je suis d'accord pour vous rencontrer. Je dis, écoutez, ce que tu dis toi aussi, ce n'est pas moi qui prends la décision. La décision, elle a été prise en assemblée populaire. C'était à l'Agora, il y avait plus de 150 habitants. Je dis, ce n'est pas moi qui prends la décision. Vous aviez une deadline qui vous a été soumise par les habitants. Vous ne l'avez pas respectée. On s'est rencontrés, puisque la deadline a été dépassée, et on a acté, en Assemblée générale et populaire, que nous allions occuper le rond-point. Bon, tu imagines ce qu'il m'a dit, en disant, me culpabilisant, vous rendez compte.
La
responsabilité, patati patata. Moi, je dis, c'est pas moi qui décide. C'est vrai, c'est pas moi qui décide. On a occupé le rond-point, pas très longtemps, parce que la police n'était pas là alors qu'elle aurait dû être là. Ouais. Et c'était très dangereux.
Et oui,
on s'est rabattu. Donc à Picon, et on a bloqué le chantier de Bouygues pendant une semaine. Quand je dis on, c'est les habitants. Les habitants ont bloqué le chantier de Bouygues. Le premier jour, on va quand même rencontrer le responsable du chantier pour l'informer. Il a un petit sourire narquois. Alors, c'est une petite crise d'adolescent. Deuxième jour, troisième jour, c'est des pertes d'argent pour eux.
Oui, bien sûr.
Troisième jour, ils viennent nous voir en nous disant, on a dit non, nous, tant qu'on n'a pas... Là, on a dit une semaine... Ça va être le blocage d'une semaine. Et après, enfin, la réunion avec la préfecture a eu lieu, mise en place d'un calendrier pour qu'effectivement, une partie des revendications demandées par les habitants puisse avoir une réponse positive. Voilà. Mais ça a été un moment... je ne sais pas si vous avez vu ce film de Carmen Castillo, qui s'appelle « On est vivant ».
Oui.
Et c'est vrai, Anne-Marie, on l'a pratiqué. Dans la lutte, on est vivant. Aussi modeste soit-elle, hein, mais on est vivant.
On est debout.
On est debout et on est vivant, tout à fait.
Il y a eu un ouvrage, Karima avait bien apprécié la phrase que traite de Cité interdite de Maurice Lemoine. Maurice Lemoine, qui a été aussi journaliste au monde diplomatique, qui a beaucoup écrit sur Cuba et autres. Donc, il y a une phrase qui me semble être pertinente et toujours d'actualité. Disait-il, dans cet ouvrage, Les cités interdites, que les populations n'étaient pas difficiles, c'était des populations en difficulté. Les cités n'étaient pas interdites, c'était les situations de ces cités qui devraient être interdites. Okay. Donc ce sont toujours une phrase qui est toujours d'actualité. Ce qui me permet aussi de revenir un peu sur les luttes actuelles du groupe de veille. Alors où en est-on ? Hein ? Donc c'est quelque chose de bien et d'important d'aborder dans la mesure où il y a cette question, nous abordons l'engagement et le groupe de veille est engagé dans différents mouvements, dans différents combats, dans différentes luttes.
Alors, ce que je dirais qui est très difficile actuellement, c'est, je ne parle même plus de sentiments, cet état d'abandon et de délaissement dans le quartier qui, aujourd'hui, du coup, impacte beaucoup la psychologie, je dirais presque à la fois des habitants, mais aussi d'un certain nombre d'entre nous, acteurs associatifs. C'est-à-dire, on lâche rien, on n'abandonne rien, mais en même temps, on se le dit régulièrement maintenant en groupe de veille, mais depuis combien de temps on pose ces questions et depuis combien de temps les choses ne sont pas résolues, même quand elles nous semblent pas très difficile à régler. C'est ça pour ça qu'on se dit, mais quand même, il pourrait y avoir des signaux, c'est ce qu'on avait dit à la dernière réunion devant la déléguée du préfet et la responsable de la politique de la ville. Vous pourriez au moins accepter l'idée d'envoyer un signal qui fasse qu'il y ait le sentiment qu'on est pris en compte sur le cadre de vie dans le quartier. Le cadre de vie aujourd'hui, il est quoi ? Et quels sont les axes sur lesquels le groupe de veille... C'est tout ce qui fait le quotidien, la question des chantiers permanents, qui à la fois se traduit depuis de nombreuses années par les questions de poussière, de passage de véhicules. L'autre jour, des mamans de l'école primaire disaient qu'à l'heure, ils ne calculent même pas l'heure de sortie ou de truc des écoles, c'est-à-dire le camion passe à l'heure où tout le monde amène ses enfants à l'école. La question des espaces abandonnés sur le quartier, délaissés, il suffit de balader sur le quartier, de se promener pour voir un certain nombre d'endroits qui sont livrés au dépôt d'encombrants, de poubelles, d'ordures, de plus en plus, et qui s'amoncellent. Il semblerait que l'autre jour, la maire de Marseille soit venue à un spectacle au Merlan, qui se passait avec des enfants, et quand elle est sortie, elle était scotchée par le tas, l'amoncellement d'encombrants qu'il y a devant maintenant le Merlan, de l'autre côté du trottoir, et qui du coup disait, mais comment ça se fait ? Mais oui, mais comment ça se fait ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire par rapport à ça ? Et ici, c'est pareil, les différents lieux qui sont recouverts par ce type d'ordures, mais ça aussi, ça imprègne l'image des gens de leur quartier. La question des épaves de véhicules, l'action qui a été menée avec la préfecture, puisque nous avions des réunions en préfecture, auxquelles étaient présents aussi notre ami Pierre Liézot et des membres du groupe de veille, c'était de dire à un moment donné, les seringues sur ce quartier, c'était il y a 2 ou 3 ans, jonchent des parcours qu'on s'est identifiés. Les carcasses de voitures sont présentes à certains endroits et tout le monde avait cartographié là où elles étaient. Et donc ça contribue aussi à ce sentiment d'abandon, etc. Il y a eu une opération de nettoyage une journée pour enlever toutes ces carcasses. On avait demandé à l'époque que ce ne soit pas une journée, mais que ce soit régulier et éviter qu'on se retrouve encore. Ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est sur le quartier, il y a non seulement les carcasses de voitures, mais les chariots de carrefour, les barrières, où on a vu ça, les chantiers qui partent en laissant les barrières et les parpaings, qui aujourd'hui sont utilisés à d'autres faits, on le sait par le réseau, qui bouchent les voies publiques, les voies d'accès pour les habitants, en utilisant ces espèces de mobilier urbain,
dire ça. Voilà. Oui, tout ça, exactement.
Et à d'autres fins. Et du coup, on se dit, mais peut-être qu'au démarrage, si tout ça s'était ramassé, s'était pas laissé sur la voie publique, ça diminuerait peut-être déjà la capacité d'un certain nombre à les utiliser pour autre chose. On a quand même eu des situations de menaces.
Et la tension qu'il y a entre les habitants.
Tout à fait. La tension, les virulences aujourd'hui, du coup, voilà. Donc, et puis du coup, bon, c'est encore un autre débat, mais comment le réseau est structuré aujourd'hui ? Ben, du coup, on aboutit à des situations de tension et de violence entre les personnes qui y sont sur ce réseau et les mamans ou les papas qui réagissent par rapport à la présence de ces barrières, être obligé de faire un gymkhana. Voilà. C'est le minimum vital, c'est-à-dire quand on a alerté, on en est au troisième courrier à Carrefour, en leur disant, parce qu'on s'est dit peut-être qu'il faut commencer par là, venez ramasser vos chariots, c'est votre boulot. Voilà. Double, envoyé à l'élu, à la ville de Marseille, à la sécurité. Copie, envoyée au commissariat de police. Copie, envoyée à la mairie de secteur. On a aujourd'hui une réponse d'une personne de Carrefour qui nous dit, nous avons pris acte de votre demande, nous allons organiser une récupération des chariots, ça fait 3 semaines. D'accord ? Ça fait 3 semaines. Alors là, imagine avec le confinement, on en a pour pendant je ne sais pas combien de temps. Pour poser un acte, les habitants du groupe de veille ont pris des photos de tous les endroits où il y a les chariots qui sont entreposés, des voitures qui sont délaissées, des endroits où il y a les barrières qui sont utilisées à autre chose. Et ce qui se passe de dramatique, on parlait de la capacité des habitants à se mobiliser à un moment donné, ça s'exprime de plus en plus, c'est à quoi vous servez ? Du coup, il y a de plus en plus d'habitants qui nous disent « Mais à quoi vous servez le groupe de veille ?»
Oui.
Finalement, vous faites remonter des trucs, etc. Et est-ce qu'on vous a entendu ? Presque à nous rendre responsables de la situation, mais ce que je peux entendre, puisqu'on dit qu'on se bat contre quelque chose. Voilà. Et aussi, du coup, ça j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on y fasse attention, à ce que nous, on n'institutionnalise pas notre façon de réagir avec les institutions, parce que qu'ils vont nous proposer, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais qu'ils vont à un moment donné nous proposer un groupe de travail, encore un groupe de travail, où on dit, oui, ok, on va jouer le jeu, on va venir à ce groupe de travail, on va rétablir avec la nouvelle déléguée du préfet un tableau récapitulant toutes les choses qui sont problématiques dans le quartier, et on a demandé à la déléguée du préfet qu'elle, elle-même, à travers les archives des rencontres qu'il y a eu en préfecture, série tous les problèmes qui ont été posés, est-ce qu'il y a eu des réponses, est-ce qu'il n'y en a pas eu. Et on se dit, à partir de maintenant, il va falloir que nous, on réfléchisse à un type d'action qui soit différent de la réunion, la proposition du groupe de travail, etc. Et ça, on sait très bien par quoi ça passe. Hein. Ça passe par la communication et la médiatisation de la situation, par le fait de jouer sur des stratégies politiques, de faire jouer un tel contre un tel, etc. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais utilisé le relais de la mairie de secteur. C'est une évidence, on sait pourquoi.
Bon.
Et aujourd'hui, on se dit, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aussi jouer sur des rapports de force. Voilà. Et en tous les cas, ils sont à construire.
Oui.
On sait qu'on se bat sur la crèche de l'œuf. C'est un boulot énorme depuis 2 ans. Et on espère qu'on gagnera là-dessus. Mais on s'aperçoit que régulièrement, il y a des freins, il y a des propos, des discours qui viennent, non pas discréditer, parce que tout le monde reconnaît le bien fondé, mais il y a toujours un événement qui va arriver, qui va retarder l'échéance. Voilà. Mais là aussi, il va falloir qu'à un moment donné, on prenne à bras le corps, oui, en termes de lutte.
D'accord.
Voilà.
Juste pour compléter par rapport à ce qu'elle a dit, d'autant plus que les habitants sont pris en otage dans le cadre général de la vie quotidienne qui mène au quotidien. Et il ne faut pas oublier que bientôt, il va y avoir la démolition de 2 lotissements de bâtiment J. Hein. Mmh. Ça, c'est, ouais,
2 entrées.
Ouais, c'est pratiquement 30 habitants, ça représente. Et d'autant plus qu'il va y avoir l'espace et loisirs qui va se faire. Ça va, on ne sait pas quand ça va finir. C'est un impact incroyable.
Donc, voilà. Oui, eh bien, merci pour toutes ces informations. Nous voyons qu'il y a beaucoup de combats, de luttes à mener sur le Grand Saint-Barthélemy, hein, donc ce qui est indéniable et qu'il faut le faire. Nous allons faire une pause musicale avant de passer à la dernière partie qui sera les conclusions, sachant que par les communiqués, nous n'avons pas de boule de cristal, comme je disais en amont, et on ne peut pas prévoir un peu qu'est-ce qu'annoncera le Premier ministre tout à l'heure pour voir les modalités concernant le confinement, le reconfinement, pourrions-nous dire. Une pause musicale, psychiatre de la rime, le temps d'un instant.
Juste le temps d'un instant, voir la vie autrement, se dire qu'il acceptera nos prières, croire que demain sera mieux qu'hier. Le temps d'un instant, voir la vie autrement, la peur que le temps n'épargne pas nos mères, croire que nos rêves traverseront l'hiver.
pieds sur terre, les yeux vers le ciel. Les mains levées, on prie l'éternel. One love pour nos mères. One love pour nos mères. Juste un instant, j'aimerais prendre le temps de pouvoir revivre dans son ventre. Écouter son cœur, ce grand orchestre. Aimer de l'intérieur sans attendre un geste. Juste un instant, j'aimerais voir mon père qui m'avoue ses erreurs pour ne pas les faire. Le temps d'un instant, je veux croire aux rêves. Je veux croire au pardon, je veux croire nos lèvres. J'aimerais croire à notre relève, à ceux qui nous remplaceront dans les larmes ou dans les joies, dans les mosquées ou à la messe, dans les synagogues. One love.
Juste le temps d'un instant, voir la vie autrement. Se dire qu'il acceptera nos prières. Croire que demain sera mieux qu'hier. Le temps d'un instant, voir la vie autrement. La peur que le temps n'épargne pas nos mères. Croire que nos rêves traverseront l'hiver. Le temps d'un instant,
le temps d'un instant. Sortir la tête de l'eau, contempler le ciel et ses étoiles filantes. Ouais, juste un instant, m'imaginer auprès de ceux dont l'absence...
Psychiatre de la rime, peut-être que nous allons poursuivre au mois de novembre, sachant qu'en écho à ce que tu disais en amont, Anne-Marie, nous avons proposé à la mairie de secteur de les recevoir dans le cadre de la prochaine émission du mois de novembre. Pour le moment, nous n'avons pas eu de réponse, mais nous espérons bien en avoir une. Et bien sûr, vous serez conviés pour que nous puissions essayer de percevoir un peu quels sont les liens que nous pourrions avoir avec, entretenir avec la nouvelle municipalité, les nouveaux élus de 13e, 14e. Alors, en guise de conclusion, parce que le temps est très court, que pourriez-vous dire, Karima, Anne-Marie, je vous laisse.
Moi, je vais faire une conclusion à mon niveau, puis Karima va peut-être le faire de façon.
Je ne sais pas.
Parce que... Voilà.
Je dirais que je suis ravie de savoir qu'il y a depuis quelque temps l'idée à Marseille que des collectifs à nouveau se retrouvent. Les effondrements de Noailles, ça a été un moment important, à la fois dramatique et aussi important par rapport à la volonté d'exercice de la démocratie et de la prise en compte du citoyen. Cette municipalité, qu'on est déjà en train de mesurer au niveau, moi je dirais, de son inefficacité quand même si ça fait que 3 mois qu'ils sont là, est venue quand même, a été mise en place, je dirais, grâce, en tous les cas, suite à toute cette mobilisation et cette envie de chasser l'ancienne municipalité, d'attendre à nouveau, du nouveau. Voilà. À la dernière réunion qu'il y a eu, où on remettait en place, suite aux états généraux, une rencontre entre différents collectifs, c'est quand même, chacun a expliqué où on en était, sur nos poids, et en se disant, mais finalement, ce qui va être important, là, l'enjeu, c'est que chaque lutte reste pas localisée à tel ou tel endroit, mais que peut-être on apprenne à être tous solidaires et à se soutenir dans le cadre d'actions, à la fois pour faire nombre, mais aussi pour montrer comment les problématiques à un moment donné de délaissement, d'abandon, d'absence de démocratie, etc., sont communs à l'ensemble de la ville et que ça soit vraiment transformé en rapport de force. Voilà. Donc, moi, je suis ravie qu'il y ait ça qui se remette en place. On y participe au niveau du groupe de veille et on va voir comment on peut tourner pour qu'on soit plusieurs à y participer. Mais d'une part, ça file un peu de l'air de se rencontrer avec d'autres. Et d'autre part, il va falloir aussi que ce soit un soutien vraiment par rapport aux luttes qui sont très localisées aujourd'hui. Parce que ça aussi, les institutions sont débrouillées pour que ce soit très localisé. Voilà.
Oui, la lutte contre le racisme est une et indivisible selon moi. Et lorsqu'il y a islamophobie, négrophobie et autres, je pense que cela a plus tendance à diviser plutôt qu'à unir. Et qu'il aurait fallu que l'on puisse arriver à outrepasser cela en considérant que lorsqu'il y a un crime raciste, que tout un chacun est concerné, quelle que soit l'appartenance ethnique, religieuse ou autre, de la personne qui a été victime de cet acte odieux, de cet acte raciste.
Alors, ça, c'est un autre débat.
Oui, oui, c'est une autre Oui, mais néanmoins, je pense qu'il s'agit aussi de le poser aussi.
Oh, absolument, d'où le débat.
Oui.
Non, ma conclusion, je trouve que c'est très intéressant. C'est effectivement que les différentes luttes ne se mènent pas de façon isolée, mais de façon collective, qu'on se rend compte. Ce que j'ai dit un peu au départ, c'est multiplier ces espaces, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, pour se rencontrer, pour effectivement briser ces barrières invisibles qui font qu'on a de plus en plus de mal à se rencontrer. Et Anne-Marie a tout à fait raison d'évoquer le drame de Noailles, parce que ça a été vraiment un marqueur fort de la mobilisation de tous les Marseillais, hein, que ce soit du nord-sud, est-ouest. Ça va faire partie malheureusement de l'histoire de Marseille, ça sera un élément historique à raconter plus tard aux futurs Marseillais et Marseillaises. Et puis, bon, moi, je terminerai toujours cette phrase de Carmen Castillo, quand on est debout, on est en lutte, ben, on est vivant. Et que demande un être vivant que d'être en action ? Et de toute façon, des combats, il y en aura toujours à mener, que ce soit dans le Grand Saint-Barthélemy ou en solidarité, comme l'a dit ma collègue, avec d'autres luttes qui sont menées, qu'on définit comme effectivement étant justes, que ce soit avec les collègues de Noailles ou ceux d'Herbel qui se battent contre la légionellose, etc. Donc les combats, ce n'est pas ce qui va manquer. Hein. Alors à la fois des combats de cité, mais des combats sociaux aussi. Hein. Tu parlais tout à l'heure, avant que l'émission démarre, comment on fait de ne pas rentrer aujourd'hui dans ce climat qui est assez anxiogène autour du débat sur le séparatisme, etc. C'est aussi des débats qu'on doit mener ici. Pas seulement des luttes, je dirais, sociales, mais des luttes aussi philosophiques et politiques qu'il va falloir mener.
Merci beaucoup, mesdames,
Anne-Marie, merci à vous.
Et Karima Birich. Et je remercie aussi notre fidèle animateur, qui est Sidi, technicien, qui est toujours présent et qui nous permet de faire cette émission. Et alors, bye-bye. Et nous vous donnons rendez-vous au dernier jeudi du mois de novembre, autant que faire se peut. Allez, merci. Allez, Sidi, allez, bye-bye.